Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Laurie.
Salut.
Mais écoute, comment ça va aujourd'hui?
Je me porte à merveille. Écoute, il fait très beau là où je suis. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi.
Bah écoute, plaisir partagé. Surtout que ça fait un petit moment qu'on est en contact et qu'on essaye de choper, mais c'est toujours difficile avec les aventuriers. Vous êtes toujours à droite à gauche, vous êtes toujours un peu partout à travers le monde ou en train d'aller chercher des sous. Et quand Exactement. Vous n'êtes pas en action, vous profitez avec votre famille ou vous reposez. Donc on aura mis le temps, mais en tout cas. Ouais, ça fait, pour te resituer un peu le contexte, moi c'était un très très bon ami qui est fan d'aventure et qui m'avait dit il faut absolument que tu l'interviewes, Laurie, il a une histoire de dingue, sa vie elle part un peu dans tous les sens mais il en parle avec le cœur et il faut absolument que tu ailles le voir. Donc, bah depuis ce jour-là, et c'est quasiment il y a un an, jour pour jour, ouais. J'ai un peu l'eau à la bouche. Et écoute, bah tu vois, la question un peu traditionnelle pour inaugurer ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, en fait, et ça c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé, c'est que j'ai fait du hockey sur glace, très petit, dans la région bordelaise. Et c'est moi, j'étais gardien de caisse en hockey sur glace. Et donc, c'est mon plus lointain souvenir, alors que j'ai fait du sport études, j'ai fait plein de choses après, c'est mon plus lointain souvenir de sport. C'est celui par lequel j'ai commencé pratiquement.
Ok, d'accord. Et il y a un bon club à Bordeaux ?
Alors, il y avait un bon club qui a fermé, en fait. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai dû arrêter, puisque j'étais à Saint-Médard-en-Jalles à l'époque. C'est une petite région à côté de Bordeaux. Il y avait une patinoire qui a fermé. Et ça demandait trop de travaux, trop d'argent et de déplacements à mes parents pour m'emmener à Bordeaux, où il y a une équipe encore actuellement.
D'accord, ok. Et tu te plaisais en tant que gardien de but ? C'est un rôle vachement casse-cou, non ? Parce que tu te prends des palets qui partent à 100 km/h dans la
exactement. Dans la tronche. Ouais, mais c'est le début, en fait, sans savoir de cette sensation d'extrême que j'ai eu besoin tout au long de ma vie, en fait, dans le sport. Et sans le savoir, en fait, je me dirigeais déjà vers quelque chose dans un sport qui était déjà extrême. Je me dirigeais en plus dans un rôle encore plus extrême. C'est vrai que gardien, c'était l'enfer. C'est un équipement pas possible pour être aux caisses. Je me rappellerai toute ma vie encore que j'avais encore une malle entière remplie de ces affaires-là. Et donc, c'était à chaque fois le même rituel pour en arriver là. C'était un équipement vraiment mais incroyable, et ça m'a beaucoup beaucoup fait plaisir et ça m'a beaucoup peiné d'arrêter.
D'accord, ok, ça marche. Et tu en as fait pendant combien de temps ?
J'en ai fait pendant 5 ans et c'était un rythme assez soutenu. J'étais plutôt doué en plus pour cette discipline-là. Et voilà, et donc quand j'ai arrêté, il a fallu que je bascule sur autre chose pour canaliser mon énergie, on va dire.
t'étais le genre d'enfant qui avait beaucoup d'énergie à revendre et que les professeurs avaient du mal à calmer, c'est ça ?
Je suis typiquement même au-dessus de ce type de d'élèves-là, puisque je suis exécrable. Mais voilà, il faut savoir que l'extrémisme ou alors l'hyperactivité, des fois ça frôle certaines fois des pathologies. Et moi, l'hyperactivité, c'est une hyperactivité très accentuée que j'ai eue durant toute mon adolescence et toute mon enfance. Donc malheureusement, oui, je suis cette personne avec laquelle il a fallu jongler toute sa vie pour réussir à essayer de tempérer le bonhomme.
Mmh. Ouais, je sais que tu as fait un petit peu de travail sur toi et que tu te poses beaucoup de questions et que durant tes expéditions, on va en reparler, je pense que tu as le temps de penser à toi, de retracer un petit peu ton histoire, mais tu sais un petit peu d'où ça vient, cette hyperactivité, cette bougeotte, cette envie d'action. Peut-être alors, que c'est un cocktail de plein de choses.
Ouais, je pense que c'est un cocktail. Alors moi, je suis issu d'une fratrie de 3 garçons, je suis l'aîné. Voilà, je suis celui qui était un petit peu au devant de l'éducation des parents, de la rentrée dans le monde, un peu des expériences aussi d'où toi soit-elle. Donc en fait, je pense que c'est un mélange d'éducation et un mélange aussi de mais qu'est-ce qui se passe si je vais là-bas, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais avoir comme sensation. J'ai toujours été très curieux comme enfant, et mon père, il est issu du bâtiment, donc j'ai eu une éducation, comme je l'ai dit, très dure, dans la violence, où j'ai eu un père qui a marqué mon enfance de violence sur enfant, parce qu'on était difficile à gérer. Et après, j'ai essuyé une autre violence qui a été la violence psychologique, puisque ma mère a fait beaucoup d'essais de par son travail de formatrice psychiatre psychothérapeute. Elle a fait beaucoup de tests, d'essais, elle, dans sa génération à elle, avec ses enfants. Et donc, ce qui a fait que j'ai subi deux traumatismes, c'est comme ça que je le dis aujourd'hui, c'est ce traumatisme physique pour sortir après ensuite avoir un traumatisme psychologique. Et ce cocktail, en fait, bon ou mauvais, aujourd'hui, je dirais qu'il a été bon parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, m'a poussé la plupart du temps à vouloir découvrir ces univers, à aller là où les autres vont pas et à me dire pourquoi pas et à me retrouver dans plein de situations très délicates.
Ok, et peut-être juste pour préciser, du coup, si je comprends bien, ta maman était psy et elle essayait de te faire faire des...
des exercices de psychanalyse.
Pas vraiment. Toi, que ouais. C'est pas vraiment des exercices de à faire des exercices. C'est qu'en fait, dans un monde de psychanalyste ou de psychothérapeute, tout est tourné sur la faculté à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Donc c'est très particulier parce que quand on est un enfant, mais on comprend rien du tout. Et ma mère, elle était en pleine analyse pour son travail, puisqu'à l'époque, pour devenir thérapeute, il fallait faire 20 ans d'analyse. Donc, elle suivait elle-même sa thérapie. Et, et quand je dis elle faisait des expériences, c'est que, par exemple, moi, j'ai souffert des pieds très jeune. Et ma mère, quand elle me regardait, elle était là, oui, la nature des pieds, en grec, ça veut, c'est tel mot, et tel mot, ça veut dire Oedipe, il faudrait que tu te poses des questions. Alors qu'en fait, j'avais juste peut-être mal aux pieds. Voilà. Et c'est ça qui a été problématique, c'est que moi, très rapidement dans ma jeunesse, je me suis senti très à l'écart de ma génération pendant que tout le monde allait en boîte de nuit ou boire des coups. Moi, j'allais à des thèses lacaniennes ou freudiennes parce que je suivais ma mère sur le cheminement qu'elle essayait sur lequel elle essayait de m'emmener. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop, que je réfléchissais trop, que je me faisais trop mal et que je passais à côté de ma jeunesse et que je passais à côté de mes amis, de mes relations. Et ça m'a poussé dans un extrême encore. Voilà. Et je me suis dit, ça peut plus durer. Et donc, un beau jour, je me suis révolté contre cette façon de réfléchir que j'aime beaucoup, mais qui me permet pas tout le temps d'être au maximum de mes capacités. Voilà, je pense que de temps en temps, il faut justement faire l'inverse. Il faut décrocher psychologiquement, foncer, plus poser de questions et voilà, et pas réfléchir. Je leur en veux pas, mes parents, mais c'est vrai que c'était une éducation, on va dire, très puissante.
Ouais, j'imagine. En plus, avec deux extrêmes un petit peu opposés et deux douleurs un petit peu associées, j'imagine que ça devait pas être évident. Et dans tout ça, à quel moment ça arrive un petit peu dans ta vie à quel moment arrive un petit peu l'aventure, les expéditions? Là, tu parlais effectivement d'avoir manqué un peu une adolescence et un début de jeunesse autour de la psychanalyse. Est-ce que déjà à ce moment-là tu faisais un peu de sport? Tu rêvais un peu de tout le monde?
Non, j'étais déjà très très sportif à l'époque, puisque donc après avoir arrêté le hockey, je me suis dirigé vers le foot. J'ai été très doué pour le foot. Et j'ai entamé un sport études qui m'a beaucoup aidé dans ma vie pour canaliser mes énergies. Donc je faisais sport études. Moi, j'étais au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Voilà. Okay. Et donc ça m'a beaucoup aidé en fait d'être dans un sport où je faisais ça, et à côté en plus de ça je faisais de l'athlétisme sur le temps que j'avais en plus parce qu'il fallait absolument que je me dépense. Donc oui, l'aventure est venue en fait avec le sport, c'est vrai, puisque toute ma jeunesse elle a nagé dans le sport à haut niveau, et ensuite malheureusement, il y a cet autre côté de moi qui est la découverte, qui est se poser des questions, qui est l'aventure, qui m'a fait en fait aller vers un domaine moins glorieux, qui a été les bêtises. Donc, j'ai commencé par me faire renvoyer du sport-études parce que justement, la discipline c'était compliqué pour moi, tenir en place, faire ce qu'on me dit, voilà, c'était très dur. Et j'ai entamé un process à cette époque-là. Pas descente aux enfers, mais de voilà, délinquance, de violence, d'escalade dans tout ce qu'on peut imaginer, jusqu'à que je termine en détention. Et c'est cette chose-là, en fait, c'est la détention qui m'a fait déjà comprendre ce que c'était la liberté. Et aujourd'hui, je le dis avec une certaine humilité et tout, mais voilà, personne sait qui n'est chanceux. Et il y a des gens qui n'ont pas droit à la liberté, et c'est un sentiment qui est incroyablement dur quand on comprend qu'on peut nous l'enlever. C'est très puissant. Et c'est cette chose-là qui m'a donné envie de partir à l'aventure et de me dire, là, j'ai envie de partir à travers le monde. C'est après avoir été enfermé, et puis on est dans un système où ça a été très long. En fait, il y a un très gros process, même après avoir fait de la détention. Il y a cette prison, en fait, qui n'est plus entre quatre murs, mais qui est... juridique, ou alors ça peut être le bracelet, ça peut être devoir signer, pointer toutes les semaines, avoir l'interdiction de quitter le territoire. Et moi, j'ai souffert de ça beaucoup, puisque j'ai eu 5 ans d'interdiction de quitter le territoire après avoir fait de la détention, donc ça faisait beaucoup d'années. Mmh. Et donc, le jour où on m'a libéré de ce poids, j'ai pu, en fait, faire quelque chose dont j'avais tout rêvé, c'était acheter un billet sans savoir la destination pour partir à l'aventure à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça que j'ai atterri aux États-Unis et que ça a été ma première expérience de voyage qui était censé être un voyage, mais qui est devenu un voyage expédition très douteux, très laborieux et très long.
D'accord, attends, mais on va y venir juste après, mais est-ce que tu, peut-être un tout petit peu pour clarifier les choses, est-ce que tu acceptes de dire pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé en détention et combien de temps ça a duré?
Oui, bien sûr, à cette époque-là, j'étais tellement révolté, donc ça a commencé par la révolte contre mon père, puisque j'en avais marre d'être un enfant battu, donc j'ai dû me révolter, à 17 ans, j'ai quitté le foyer familial. Il y a eu cette escalade, comme je le disais, dans la délinquance. Et puis, moi, j'ai été en détention pour une erreur de jeunesse. Je tiens à préciser pour toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est que moi, je suis allé en détention pour vol aggravé à main armée, ce qui n'est pas rien. Mais bon, à cette époque-là, j'avais 18 ans. C'était il y a plus de 12 ans. Même 14 ans, et donc voilà, j'ai fait cette bêtise que j'ai beaucoup regrettée. Je n'ai fait de mal absolument à personne, et il n'y a pas eu de soucis. Et je me suis rendu à la police, moi, parce que justement ils n'arrêtaient pas d'intervenir chez mes parents, et c'était très long. J'ai fait pratiquement 8 mois de cavale dans une autre ville, et je suis rentré pour me dire, ben voilà, c'était un cycle de ma vie, et je dois l'assumer. Et je dois y mettre un terme. Et je me suis présenté en disant, c'est moi, cette personne-là. Et voilà. Et ça a cassé quelque chose, en fait. Ça a fini un cycle. Et j'ai fait le temps que j'avais à faire. Et un autre cycle est né. C'était enfermement. Et après, un autre, avec cette interdiction de territoire. Et au fur et à mesure, des cycles se sont enchaînés pour en arriver au voyage, aux expéditions.
Waouh, écoute, je suis impressionné. Franchement, je suis impressionné par toute cette évolution et tout, parce que quand je vois ton parcours, tes photos, la façon dont tu t'exprimes maintenant, le charisme que tu as, l'aisance et tout, on pourrait pas se douter de tout ça, tu vois. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais
dans un sens, si. Des amalgames. Oui, bien sûr, on fait des amalgames, on a un a priori, et puis voilà, on vit dans un monde où l'image est importante et tout. Mais même sans ça, c'est pour ça que moi, justement, sur mes réseaux, j'essaye de complètement casser les codes sur l'homme parfait et la réalité. Moi, aujourd'hui, j'ai un statut, j'ai fait des conneries, et j'en parle ouvertement, et je parle des bêtises que je fais, et des choses que je referai plus. Voilà, d'être le plus honnête possible, en fait, avec la vie qu'on a eue. Hein. On ne se refera pas, hein, quoi qu'il arrive.
Ok. Et du coup, il se passe 5 ans pendant lesquels tu peux pas quitter la France. Tu rêves de faire ta première expé et tout. Et c'était quoi ton, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un déclic vers l'aventure? Enfin, je veux dire, certes que après avoir manqué de liberté, que t'as envie de partir, ça se comprend entièrement. Et je pense en tout cas, je l'entends bien. Mais qu'est-ce qui te donne envie de faire vraiment une expédition d'aventure? Il y a eu un déclic, une vidéo, un truc?
Ça s'est pas profilé vraiment comme ça, en fait, puisque si tu veux, les mauvais côtés de mon père, je te les ai cités, mais il y avait aussi des bons côtés. C'était que c'était un homme très dans l'autonomie, qui nous a appris à chasser, qui nous a appris à monter, à créer des camps, à faire des cabanes, à pêcher. Donc très branché nature quand même. Donc on a toujours nagé dans ce climat-là, qui nous a permis d'acquérir. Mon frère et moi, parce qu'on a 18 mois d'écart et on a vraiment été cul et chemise, d'acquérir beaucoup, beaucoup de facultés de survie. Donc la survie, on l'a vécue au travers des coups et au travers de l'éducation de nos parents, parce que pour nous, ça a été déjà de la survie. Mais avec cette éducation nature, où il faut se débrouiller, il faut savoir monter un arbre, tu sais monter, il faut savoir descendre. Et donc de là est né déjà ce concept de survie, pas d'expédition, mais de ce climat un peu extrême. Et ce qui a fait que ça a dérapé, ou alors que ça s'est orienté vers les expéditions, c'est ce premier voyage, en fait, pour lequel je n'étais pas du tout préparé, puisque je suis parti complètement à l'arrache, avec un sac de 20 kilos, 21 kilos, c'était n'importe quoi. Et en fait, je suis parti avec 500 € en poche pour atterrir à New York, et je ne savais même pas où je dormais le soir. Tout ce que je voulais, c'était partir. Et donc... de suite, j'ai été mis dans le bain et j'ai compris que ça serait pas du tout un voyage en toute dilettante et où je ferais du tourisme, mais qu'il allait falloir que je survive, en fait, dès le départ, dans une ville et ensuite ailleurs, et ça pendant de longs mois à travers les États-Unis. Et donc, il y a plein de petites expériences au sein de ce voyage, puisque je me suis perdu dans les Everglades pendant 12 jours, à ne pas boire et pas manger, ça c'était sur la côte Est. Sur la côte Ouest, je me suis fait piquer par un gros scorpion en allant visiter le Grand Canyon. Donc, beaucoup de choses en fait qui font qu'à travers ce premier voyage, j'ai compris que j'étais beaucoup plus dirigé vers la survie. Et c'est cette aventure-là qui a complètement changé la façon dont je déciderai de voyager par la suite. J'avais envie de mettre à profit la survie, l'expédition et l'exploration.
D'accord, ok. Et du coup, c'est vraiment ce voyage-là qui t'a attiré vers ces univers-là. Comment est-ce que tu reviens ? Enfin, je veux dire, dans quel état tu reviens ? Parce que tu vois, tu pars, t'es, je vais pas dire un homme comme les autres, tu vois, mais t'as ton histoire, donc t'as vécu déjà beaucoup de choses, mais là, tu reviens, t'as vécu une sensation de... T'as vu la vie et la mort presque tous les jours.
Ouais.
Qu'est-ce que tu te dis en revenant ? Comment alors, ça se fait que t'as eu envie de repartir tout de suite, tu vois ?
Ouais, alors déjà, il faut que tu comprennes un truc, c'est que, si tu veux, j'ai omis de te parler de quelque chose qui a quand même... qui a fait basculer... la carrière ou le chemin que j'ai pris à cette époque-là, c'est que très jeune, j'ai été diagnostiqué de ce qu'on appelle une analgésie congénitale, qui est un syndrome, en fait, très à part entière, qui ne me permet pas de ressentir la douleur comme quelqu'un de normal. Ce qui fait qu'en fait, c'est cette chose-là, ce fait que je ne ressens pas la douleur comme tout le monde, c'est-à-dire que mon seuil de douleur est beaucoup plus éloigné, qui fait que mixé à l'extrême, qui en fait était ma vie, puisque aujourd'hui, voilà, avec le parcours que j'avais à cette époque-là, moi, vivre dans l'extrême, en fait, c'était devenu une normalité. Et du coup, je me posais pas la question de est-ce que ça va être dur quand je vais revenir ? Non, c'était tout le temps dur. Donc, pour moi, que ça soit dur, c'était mon quotidien. Je sais pas ce que c'est quelque chose de facile. Et quand je suis rentré en France, ça a continué. À un moment donné, je m'étais engagé pour essayer de faire une école de cinéma à Paris et j'ai failli abandonner au bout de je sais plus combien de mois de voyage, des mois et des mois et des mois d'aventure. Je suis rentré à Paris avec l'avion que j'avais et je me suis retrouvé à Paris à la case départ en fait, sans argent, pieds nus avec mon sac à dos après avoir failli mourir 200 fois et je me suis dit bon ben voilà, l'aventure continue dans ici ou ailleurs en fait, le pays n'a guère d'importance et voilà, et un nouveau cycle a commencé.
OK. Et quand tu dis un nouveau cycle, c'est le cycle vers l'aventure, vers ta vie d'aventurier, c'est ça ?
C'était le cycle en fait alors c'était pas ce cycle-là, non, c'était un cycle plutôt j'ai été marginal pendant je sais pas combien d'années et je viens de rentrer d'un grand voyage, une grande aventure. Je vais essayer de rentrer dans les clous, ce qui n'a absolument pas marché puisque je suis parti au bout de même pas un an de Paris, j'avais une condition de vie très très dure, je vivais dans des garages pour subvenir à mes besoins, je travaillais la nuit pour aller à l'école le jour et ça n'a pas marché et c'est qu'après ça après de longues années en fait où j'ai décidé de mixer les voyages, les aventures, ma soif de découverte au business, puisqu'avant j'ai eu une très grande carrière aussi d'entrepreneur, ça c'est une partie de ma vie qui est moins présente dans ce que je peux raconter. Et il s'est passé quelques années après tout ça où j'ai mélangé les affaires, le voyage, un peu patati patata, où je me suis pas vraiment orienté vers l'extrême. L'extrême c'est arrivé qu'il y a quelques années, assez récemment.
D'accord. Ok. Et je vais quand même revenir sur ce que tu as dit, parce que sinon je vais me faire engueuler par les auditeurs. Mais tu as dit du coup que tu avais un syndrome. Alors excuse-moi, j'ai oublié le nom.
Ça s'appelle le syndrome d'analgésie congénitale.
Ok. Et donc tu ne sens pas la douleur comme nous.
Non.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples ?
Oui, par exemple.
Et si tu mets la main dans le feu, tu te brûles, non ?
Oui, je vais me brûler, mais en fait, mon temps de réaction va être beaucoup plus long que le tien. Ou alors, par exemple, je peux te dire que quand je travaillais dans le bâtiment, parce que pendant les 5 ans où j'ai été bloqué en France, j'ai entamé une formation chez les Compagnons de Devoir. Et bien, pendant cette formation-là, je m'étais planté, je m'étais traversé le pied, la chaussure avec un clou. Et puis, je ne l'avais même pas remarqué pendant toute la journée. Et quand je suis rentré chez moi pour enlever mes chaussures, je n'ai pas réussi à enlever ma chaussure droite et j'ai compris qu'un clou avait traversé mon pied. Donc voilà le type de
genre
problème
de part en part.
De part en part, ouais. Voilà le type de problème auquel je dois faire face en fait. Alors au début, c'est génial parce qu'on va pas se mentir, quand t'es jeune, tu te prends pour un super héros. La problématique en fait de ça, c'est que il y a toutes les maladies ou toutes les problématiques que tu ne vois pas. Ça va être très jeune, c'était les otites à répétition, les infections, les choses qui ne se voient pas. Ou voilà, il faut que je saigne des oreilles pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Enfin, et après, il y a la notion de je souffre mais je le sens pas. Et encore à l'heure où je te parle, j'apprends à filtrer en fait ma douleur. Ça veut dire que quand je sens un peu la douleur, ça veut dire que c'est déjà trop tard aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Donc en fait, il a fallu que j'apprenne pendant toutes ces années à jouer avec la mort, à tricher, à pas partir dans des endroits où je pouvais pas. Et le problème, c'est que comme tu te dis j'ai ça, je suis un peu immortel. Et quand tu penses que t'es immortel, tu penses que tu peux prendre tous les risques et tu vas mourir comme un humain normal. Moi, grâce à je ne sais pas quoi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est ce qui fait que je ne suis jamais, enfin, je suis mort cliniquement, mais je ne suis pas mort puisque je suis là encore pour parler aujourd'hui. Mais j'ai dû apprendre en fait à gérer cette problématique-là et aujourd'hui à te dire bon, mais j'ai pu traverser des glaciers, des déserts, tout ce que tu veux, mais maintenant je suis obligé de savoir que je vais prendre un risque et que ce risque, c'est pas ce que je vais ressentir en premier et comment je vais réussir à le traiter pour pas arriver directement à la case finale.
D'accord, ok. Waouh, c'est dingue, c'est dingue. Mais médicalement, les médecins s'en sont rendus compte hyper tôt, quoi. T'as grandi toute ta vie avec ça, quoi.
Oui, complètement. En fait, c'est ce que je te disais, c'est que c'est ce qui a mis le doigt sur ça, c'est les otites à répétition. Et c'est un syndrome avec lequel je vis depuis tout jeune. Et voilà, et comme je te dis, j'ai dû apprendre avec les années à jauger la limite, ce qui est très dur, ce qui est très très dur.
Ok. Et est-ce que tu arrives à avoir quand même de l'empathie pour des gens qui vont souffrir beaucoup plus facilement? Tu vois
c'est une très bonne question.
Tu vois, il y a des enfants à l'école. Tu vois, c'est typiquement en ce moment-là. Moi, je passe beaucoup de temps là-dessus vu que je suis avec un enfant très jeune et que j'ai mon deuxième fils qui a 6 ans. Mm-hmm. Tu vois, je vois le truc. Et tu vois l'enfant quand il tombe, si personne le regarde, des fois il se fait pas mal, il pleure même pas. Et
exactement.
Puis, si y a ses parents qui sont là, qui sont un peu, tu vois, traumatisés ou qui font oh là là,
je
là,
vois
là,
tout à fait.
Ouais. Et tout, et ben l'enfant va se mettre à pleurer, tu vois.
Tout à fait. Et, je suis d'accord avec toi.
Et tu vois, donc la douleur, c'est un truc hyper subjectif et sur lequel l'influence des autres est énorme.
Ouais.
Et du coup, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et moi, j'ai plein de questions par rapport à ça. Mais ouais, est-ce que tu arrives à ressentir
le commun des
mortels?
Alors c'est très dur. Et puis j'ai parlé de deux sujets en plus qui sont attenants à ça. C'est que déjà, le premier, c'est que j'ai une de mes filles qui est atteinte de la syndrome de la génétique congénitale. Donc je me rends compte à quel point ça doit être dur en tant qu'enfant. Des fois, pour te donner une idée, elle se met trop près d'un poil, elle se crame la peau à avoir la trace de la grille, et elle se tourne et elle n'a rien senti du tout. Et donc, du coup, en fait, s'il y a un process qu'on doit faire autour de ça, c'est que moi je dois lui apprendre, c'est que je sais très bien qu'il faut qu'elle soit pas sensible, mais qu'elle soit alerte déjà à ce qui est visuel. À partir du moment où c'est visuel, c'est que c'est grave. Et que elle comprenne que le moment où elle a mal, c'est pas le moment qui est le bon. Ça veut dire que c'est déjà bien entamé dans le process de la difficulté, de la douleur, de la fracture ou n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Donc c'est très très dur. C'est un chemin qui est très dur à faire, surtout pour un enfant. Et je le vois avec ma fille la plus petite. Mais elle ne pleure jamais, quoi. C'est l'enfer. Elle a des bleus énormes. Elle se pète tout, mais elle ne ressent rien. Donc je peux même pas imaginer comment ça devait être pour moi. Enfin, ça me donne un aperçu, mais c'est compliqué. Et la seconde chose, c'est que, à l'inverse, ma grande, et c'est une fille très sensible. Elle est beaucoup plus comme sa mère, très sensible sentimentalement, très sensible au niveau du corps. Et donc, elle pleure pour un rien. Voilà. Elle est atteinte d'une hypersensibilité.
Ok. Ouais.
Et ce qui est très dur pour moi, parce que j'ai très peu de patience, puisque moi, j'ai grandi à la dure, en ressentant pas spécialement la douleur ni mes émotions, puisque dans un sens, après l'un va avec l'autre.
Ouais.
Et là, quand je dois faire face à ça, ça m'a demandé énormément de travail sur moi-même, énormément de travail sur l'empathie, sur la patience, sur OK, je dois prendre le temps en fait. C'est mon rôle de prendre le temps et c'est mon rôle de le prendre avec mes enfants parce que j'ai pas le choix. Mais je fais aussi un métier où des fois j'emmène des gens ou alors je peux avoir des partenaires. C'est aussi mon rôle d'avoir une empathie d'abord psychologique et après de comprendre que je peux pas comprendre.
Ouais.
Voilà, okay. Je ne peux pas comprendre des fois pourquoi quelqu'un pleure pour ça ou qui peut arriver à voir ça. Voilà.
Ouais.
Et okay. Mais je comprends que cette case je l'ai pas et du coup ça me rend alerte en fait. Et ça me rend plus alerte, ça me rend sensible à l'écoute de la personne.
Ok. Bon, en tout cas c'est hyper intéressant comme sujet et je pense que des médecins pourraient s'en donner à leur joie. Je sais pas si tu
peux. J'ai fait pas mal de tests, ouais, c'est horrible. Je fais plein de tests à l'effort, je fais des tests à la sensibilité. Ah ouais, je suis un peu un cas d'étude sur plein de points. Puis voilà, après, il y a ce rapport aussi à la mort, j'en parlais tout à l'heure, qui rentre en considération, puisque malheureusement, ma condition m'a fait faire des arrêts cardiaques, m'a fait faire des morts médicales, et ce qui pousse encore plus la réflexion de OK, donc je ne contrôle vraiment pas cette problématique-là. Il faut vraiment que j'arrive à la solutionner un maximum, à avoir des codes pour savoir quand c'est que je dois plus y aller ou m'arrêter, quoi.
D'accord, ouais. Et c'était dans quel contexte que t'as, du coup, que t'as fait des arrêts cardiaques?
J'ai fait des arrêts cardiaques, alors très jeune, c'était par rapport, j'en ai fait un par rapport à des prises de substances. C'était juste après la prison, j'ai complètement déraillé. Voilà, ça m'était jamais arrivé avant, et puis quand ça m'est arrivé, ça m'a forcément arrivé dans l'extrême, qui est le fil conducteur de ma vie, l'extrême. En fait, que ça soit bon ou mauvais, chaque chose que j'entreprends, elle est dans l'extrême. Je peux monter une entreprise en l'extrême, la réussir, gagner énormément d'argent, comme je peux partir à l'autre bout du monde, pas préparé à l'extrême, ou faire des actions toujours à l'extrême. Ce qui est une problématique, hein, j'en suis absolument pas fier. Voilà, je bosse sur ça, hein, mais c'est pas facile. Et après, voilà, il y a plein de façons de mourir. Hein. Moi, que ce soit des animaux, que ce soit des sécheresses, que ce soit des pertes de conscience, de plein de choses. Ma vie a tellement été, par exemple, piqué par ce scorpion, ça a été une infirmité terrible parce que je ne mourrais pas, mais la vie me quittait petit à petit avec justement une paralysie qui allait devenir mortelle ou une paralysie à vie si je faisais rien. Donc, il y avait un temps qui était compté. Voilà, il y a plein d'expériences comme ça, en fait, que ça soit les erreurs de jeunesse ou la non-préparation dans nos expéditions, qui fait que c'est très dur.
Ok. Écoute, j'aimerais revenir un petit peu peut-être plus sur la partie aventure et tes expéditions. En tout cas, je pense que là, je te comprends mieux déjà, et je pense que les auditeurs aussi ont pu peut-être essayer de se mettre à ta place, même si c'est pas
mais venez.
Mais moi, je suis hyper intéressé par ce côté un peu. Qu'est-ce qui t'attire dans la survie? Qu'est-ce qui t'attire dans les expéditions? Et est-ce que tu peux raconter peut-être un petit peu le cheminement des différentes expéditions que tu as voulu réaliser et comment est-ce que tu les as un petit peu organisées de mieux en mieux? Bon là, manque de bol, on en reparlera un petit peu après. Il y a eu cette pandémie qui a freiné beaucoup des projets.
Ouais.
Mais avant ça, comment est-ce que tu as structuré ta pensée et en fait quelle est comment est-ce que tu t'es organisé pour en faire un petit peu ton métier et ta passion.
Ok, donc la première des choses en fait, c'est que avec les années, j'ai compris une chose sur moi, c'est que j'avais pas peur de souffrir déjà et que même à plein moment de la vie, j'ai besoin de souffrir. Voilà, j'ai besoin de souffrir en fait, j'ai besoin d'avoir cette réalité qui me rappelle que je suis un homme et que je vis des choses douloureuses comme n'importe qui. Et à défaut en fait de ne pas avoir le temps dans un emploi du temps ou dans un quotidien, eh bien je m'oblige en fait à vivre ces situations extrêmes qui me poussent automatiquement dans des réflexions hors du commun et qui me font avoir une grande humilité sur la vie ou alors une rétrospection sur plein de situations et qui me font prendre des décisions. C'est un mélange en fait d'extrême, d'acceptation de souffrance, de volonté à vivre des choses avec un pic d'adrénaline très très extrême, puisqu'il a fallu que je remplace toute cette violence et toute cette illégalité, toute cette délinquance par quelque chose de plus structuré. Et même si ça l'a pas été dans mes premières expéditions, Je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire après ce voyage aux États-Unis qui avait déjà été incroyable, parce que j'ai quand même traversé les États-Unis pieds nus déjà, c'était quand même un exploit incroyable. Et bien, qu'est-ce que je peux faire qui va monter d'un cran et avec quoi je vais me sentir à l'aise? Et puis, j'ai commencé par me dire, bon, ben, je vais aller traverser un désert pieds nus, parce que je suis à l'aise pieds nus. Moi, je ne mets jamais de chaussures, en fait. Voilà, les chaussures, c'est pas quelque... j'ai arrêté de porter des chaussures depuis déjà quelques années. J'en mets que quand je fais des interviews sur des plateaux. Et encore, on se bat. Parce que justement, il y a cette notion de mort et de du fait que moi, j'ai quelque chose qui m'anime énormément, c'est que je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour qu'on me prenne la tête, j'ai pas le temps pour qu'on me dise quoi faire, j'ai pas le temps pour savoir si je vais prendre la bonne ou la mauvaise décision, j'ai pas le temps pour que tu m'en veuilles, j'ai pas le temps de ne pas te parler pendant des années et tout, je n'ai pas le temps. Moi, je sais ce que c'est la mort, je sais qu'elle arrive tôt ou tard, et les gens, ils vivent dans l'utopie de croire que elle arrivera plutôt tard, alors que en passant au passage piéton, on peut se faire renverser et être paraplégique et voir la mort au bout du tunnel. Moi, voilà, je suis quelqu'un d'hyper réaliste et je n'ai pas le temps pour un maximum de choses. Donc, je fais beaucoup de choses mal, mais je les fais. Je prends des décisions et je suis parti traverser ce désert en Espagne pendant 17 jours, ce qui m'a valu le titre de premier Français à avoir réussi à traverser des Bardenas pieds nus. Ce que je cherchais pas spécialement, mais voilà. Une sensation d'autonomie, d'extrême, de seul face à toi, seul face à ton corps, parce que le corps évolue, on grandit avec l'âge et il y a plein de choses qui changent face à nos capacités. Donc j'ai commencé par ça, j'ai commencé par faire du très chaud, j'ai fait pas mal de stages de survie en Guyane, au Brésil, je suis allé travailler avec les commandos parce que la survie c'est quelque chose qui m'a complètement intéressé. Voilà, j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé la survie, j'ai toujours dit, tôt ou tard, on va revenir à cet âge-là, cet âge un petit peu de pierre, où on va devoir être autonome. Et c'est incroyable, malheureux mais incroyable. On s'est retrouvé avec les événements qui viennent de passer et où on a dû faire face justement à se dire, ah ouais, ok. Mais peut-être qu'en fait, il va falloir qu'on pense à être plus autonome et revenir en arrière. Voilà, donc j'ai toujours développé ce concept d'aimer la nature, de vouloir ressentir ces sensations extrêmes, de dépassement de soi évidemment, le défi, le challenge. Moi je suis quelqu'un qui adore le challenge aussi, donc je veux toujours faire des choses que les autres ne font pas, un peu comme Mike Horn, comme plein de grands sportifs qui font aussi ça pour le côté sportif. Et donc du coup après je suis parti en Asie, traverser, remonter le Mékong en pirogue, j'ai traversé une bonne partie de l'Asie pieds nus à devoir survivre sur des îles avec des noix de coco. Enfin voilà, j'ai passé pas mal de temps à peaufiner mon art et à me rendre compte à un moment donné que le solitaire et l'extrême, c'est ce que je voulais faire et je me suis dit que je voulais en faire mon métier.
D'accord, ok.
Moi, je suis plus issu des milieux subsahariens tropicaux, donc je traversais plusieurs déserts. Que ce soit au Maroc, en Espagne ou plein d'autres.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et j'ai décidé il y a 2 ans de me diriger vers le froid. Voilà. Et c'est comme ça qu'est venue ma première expé polaire, pour laquelle je n'étais pas du tout préparé, qui m'a valu aussi le titre de premier Français à réussir à une traversée en solitaire du plus grand glacier d'Europe.
Ok, wow, génial.
Voilà, et donc, c'est plein de situations complètement différentes. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans ce métier, qui n'est pas un métier encore aujourd'hui, qui n'est pas un métier reconnu, qui n'est pas une discipline, l'exploration, c'était qu'on devait être excellent dans aucun domaine, mais bon partout. Ouais. Il faut que je sache faire du ski, il faut que je sache faire du vélo, il faut que je sache faire de l'alpinisme, il faut que je sache gérer la rame, de la voile, enfin voilà, et il faut être multisport, donc c'est ça qui m'a fasciné.
Ok. Et tu dis que ouais, aujourd'hui c'est pas encore un métier. Peut-être comment est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui de l'exploration? Comment est-ce qu'on peut comment
faut
est-ce que
battre
tu peux
fort.
faire ça à plein temps?
Faut se battre très fort parce que moi j'ai pour rêve d'en faire une discipline. Voilà, aujourd'hui Red Bull ou des grandes marques qui sont capables de sponsoriser des mecs qui traversent, je sais pas moi, des qui font du vélo ou qui font de la skyline, ou je sais pas, un voilier ou n'importe quoi. Voilà, l'exploration c'est un métier qui est extrêmement dangereux parce qu'on prend beaucoup plus de risques, puisqu'en fait le concept de l'exploration il a quelque chose de temporel, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps. Alors qu'un sportif qui s'entraîne pour, je sais pas, par exemple une course ou par exemple une nage, on va dire ça va durer, son entraînement va durer très longtemps, mais l'action sur cette compète-là va être très short. Donc il va prendre beaucoup de risques, je suis d'accord, mais sur une période très courte. Alors que nous, on s'entraîne toute l'année et en fait, on part 4, 5 mois ou 6 mois à travers le monde et on se met en danger, que ce soit des animaux, des climats très extrêmes ou des situations sportives qui nous demandent une endurance incroyable. Voilà, il faut que notre corps puisse subir des conditions vraiment extrêmes.
Ok.
Et donc, voilà, l'exploration, j'aimerais pouvoir en faire une discipline.
Ok. Et à date, pour toi qui ressent très peu la douleur, à date, c'est quoi le, est-ce que t'as une, l'anecdote la plus difficile ou un moment où vraiment, auquel t'as énormément souffert?
Ouais.
Tu citerais quel passage du coup de toutes tes expéditions?
Le moment clairement le qui me paraît le plus dur aujourd'hui, c'est cette piqûre de scorpion, puisqu'en fait je suis au cœur d'Indian Village dans le Grand Canyon et je me fais piquer en fait en bas, voilà, tu peux pas faire plus bas, donc au bord de Colorado River et et en fait, si tu veux, à cette époque-là, je le savais pas encore, mais le venin du serpent ne me tuerait pas, mais par contre, allait créer une atrophie du muscle et qui était couplée au fait que je ne m'hydratais pas correctement et qui me provoquait en fait une contracture de pratiquement tous les membres du corps. Donc, à chaque fois que j'avançais et que j'étais à flanc de falaise avec un dénivelé négatif de 800 mètres en train d'essayer de remonter pour essayer d'aller chercher les secours parce qu'il se passe rien pendant des heures et des heures. Qui est censé être une rando en fait de 6 heures, 6-8 heures. Moi, j'ai mis plus de 18 heures pour remonter. Okay. Et à chaque fois que je faisais un pas, j'avais une contraction, j'avais une crampe. Et j'étais obligé d'arracher mon t-shirt, de me faire des garrots à tous les membres des jambes pour éviter les contractures et réussir à monter. Et ça a été la sensation la pire de ma vie parce que je me suis dit... Enfin, ça a commencé en fait avec la piqûre du serpent où je me suis dit ok, ta vie elle est comptée et je la souhaite pas à mon pire ennemi en fait, de penser que tu vas mourir. Ouais. C'est, enfin je veux dire, quand tu te dis bon, ok, il me reste plus qu'une minute à vivre, j'ai pas réussi à pleurer, mais comme dans les films, ma vie a défilé. Et ensuite il y a eu l'effort physique qui m'a demandé une puissance incroyable. C'est que à chaque fois que je faisais un pas, et la particularité du Grand Canyon c'est que c'est des grandes marches en fait, des très grandes marches, donc en fait tu montes toujours avec la même cuisse. À chaque fois que je faisais un pas, je me suis dit, je peux plus, je dois m'arrêter, je vais jamais y arriver. Et je marchais à côté, à flanc de falaise pour pas être sur le rebord parce que je perdais l'équilibre. J'arrivais plus à marcher comme après, je sais pas moi, un mec qui a fait un Ironman ou un truc comme ça. C'était un enfer. Et à chaque fois, je me suis dit, mec, tu peux pas mourir ici, tu peux pas crever ici, sous le cagnard déshydraté, comme un con et tout, c'est pas possible. Il faut que tu te relèves. À chaque fois, je me suis relevé, je suis retombé, je me suis relevé et j'ai mis plus de 18 heures à remonter. Et quand je suis arrivé en haut, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout au départ, que ma voiture, elle était encore à 30 km puisque j'avais fait une boucle. Donc voilà.
Et donc là, ouais, tu as 30 km à faire avant de pouvoir...
Je me suis affalé sur un parking et j'ai été ramené à ma voiture. Mais c'était une des sensations les pires de ma vie parce que j'ai jamais... Pourtant, si je te dis ça, c'est que ça doit être fou, mais j'ai jamais autant... repousser les limites de ma vie.
Ok. Ouais.
Voilà. Ça a été pour moi le moment où je me suis dit, voilà, je vais mourir, mais je peux pas m'arrêter là.
Est-ce que tu sais médicalement qu'est-ce qui t'a fait survivre? Parce que j'imagine que ce scorpion, il aurait piqué n'importe qui N'importe quelle personne, il l'aurait peut-être achevé sur le coup. Tu vois, est-ce que tu sais médicalement ce qui fait que ton corps il a résisté?
Ouais. Mais médicalement, ce qui fait que mon corps a résisté, c'est justement ce syndrome-là. C'est ce syndrome qui m'a aidé. C'est qu'en fait, bien que ça soit horrible et infernal et invivable à traverser comme expérience, je ressentais pas à sa juste valeur la douleur que je devais ressentir. Et si j'avais été quelqu'un de normal, j'aurais jamais pu continuer à avancer. La douleur aurait été trop importante et les contractions n'auraient jamais réussi à me relever. Et ce qui a marché, c'est le mental avec cet instinct de survie, puisque c'est de ça qu'on parle. Donc voilà, j'ai plein de questions à ce niveau-là. Les gens ils font que me dire ouais, comment tu fais pour croire l'instinct de survie, est-ce qu'on l'a? Ben, je vais te dire, je vous souhaite pas ça, mais quand tu es face à la mort, en fait, tu verras, tu réagiras comme tout le monde, tu veux pas mourir, même si tu penses le contraire. Ouais. Et donc, tu développes quelque chose qui te raccroche à la vie. Et moi, ça, c'est très, très puissant. Si je suis pas mort à travers toutes mes expériences passées, c'est pas pour finir cuit comme contre une falaise, alors que je suis à quelques kilomètres de la fin. Ouais. Donc, c'est à la fois cette analgésie congénitale qui me faisait pas ressentir la douleur à sa juste valeur et cette puissance croyance de m'arracher, d'avoir la rage de vivre, quoi.
Ok, je comprends mieux. C'est hyper intéressant. J'aurais plein d'autres questions à te poser, mais il faut aussi qu'on fasse d'autres sujets et qu'on explore un petit peu. Mais moi, j'étais très très curieux de d'en savoir un petit peu sur le projet Icarus, alors qu'il a été un petit peu mis de côté à cause du pandémie. Très rapidement, ce que j'ai compris, moi, c'est que vous vouliez faire les 7 sommets les plus hauts sur les 7 continents. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet? Pourquoi est-ce que cette fois-ci tu décides de partir à deux alors que j'avais l'impression que souvent tu partais seul?
Tout à fait, c'était très exact. C'est ma première aventure en binôme. J'ai accepté cette aventure avec Mathieu, qui est mon partenaire, parce que pour une fois, je trouvais qu'il y avait un mec aussi barjot que moi, avec des idées infaisables. Et c'est ce qui m'a saisi, c'est que c'est quasi impossible, en fait. C'est quasi impossible, parce que on traverse tous les biotopes les plus violents du monde, avec des températures qui vont de 50-60 à moins 50-60. Donc ça m'a plu parce que c'est multisport, parce qu'il faut savoir gérer plein de disciplines différentes, voilà, du vélo, du kayak, de la voile, enfin voilà, tout ça, ça m'a fasciné. Et je me suis dit, putain, il y a un mec assez cramé pour avoir pondu un projet comme ça. Et je me suis dit, je veux en être, je veux que ça soit moi qui soit pris et tout. Et en fait, cette histoire, elle est assez incroyable puisque il vit à Montpellier, Mathieu, il est natif de là-bas, et moi, j'ai vécu là-bas pendant des années. Et j'ai un pote à moi qui me tague sur un article de presse qui est sorti où il dit, où je vois marqué aventurier cherche partenaire pour expédition. Et je me dis, et moi, je devais partir en Islande pour traverser mon glacier. Je me dis, ouais, bon, allez, je vais lui envoyer un petit message comme ça, à l'air de rien. Et il avait eu que des demandes, que des propositions horribles et tout. Il m'a dit, ouais, ok, vas-y, ça me chauffe. Quand tu reviens de ton glacier, si tu reviens, on fera des sorties ensemble et on va voir si ça marche. Et il m'explique le projet, comment c'est né. Voilà, lui, il a fait un tour du monde. Il s'est dit, il faut que je fasse un truc de ouf. Et il me dit, moi, ce que j'aime dans l'aventure, c'est que ça soit vraiment une aventure. Partir 15 jours en essayant de duper un peu les gens sur le concept de l'aventure, moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ça soit une vraie aventure. Et les vraies aventures, c'est des épopées. Et les épopées, on n'en fait plus. C'est les gens qui partent et qui ne reviennent pas pendant des années. Et nous, une expédition, un chapitre chaque année, ça nous prend 4 à 6 mois hors de chez nous à l'étranger pour l'expédition et 8 entre les entraînements et la préparation physique à pas être en France, quoi. Donc c'est une épopée.
Okay.
Et voilà. Et le concept de temps, puisque c'est une expédition qui est sur 7 ans, un chapitre par an, parce qu'on peut pas tous les faire d'un coup, sinon on partirait pour 7 ans. C'est le concept de temps qui m'a plu aussi, de devoir relever un défi nouveau chaque année. Oui, vas-y. Désolé.
Ouais, vas-y, pas de souci. C'est normal.
Donc il y a ce concept de temps qui était quand même incroyable. Et puis je me suis dit, ben voilà, parfait. Ça regroupe plein de choses que j'ai pas réussi à faire. les expéditions du froid, chaud, tropical, subsaharien, et je me suis dit, ouais, et puis de l'Alpi. S'il te plaît, mon cœur. Oui, je vais le faire. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et puis voilà, puis il m'a dit, écoute, vas-y, j'ai déjà fait le premier chapitre, je l'ai fait tout seul en Amérique du Sud. J'ai traversé le champ de glace de Patagonie pour aller faire l'Aconcagua, 6900 mètres. Voilà, maintenant il me faut un mec avec qui je peux partir, sur qui je peux compter. Et puis on est devenus un petit peu les deux doigts de la main, on était très complémentaires. Et le projet est né. Cette année, le chapitre que nous devions effectuer, c'était plusieurs records du monde en fait en une aventure, puisque voilà, c'était la traversée du passage du Nord-Ouest, qui était une traversée qui n'a jamais été réalisée par des Français et même encore à ce jour très très peu faite, jamais faite dans le sens qu'on veut la faire. Il y a que Mike Horn qui avait effectué cette prouesse. Pour ensuite donc la traversée du passage du Nord-Ouest, en fait, ça équivaut à 3000 km sur les mers gelées du Canada à ski et en voile de kite, pour ensuite descendre à travers l'Alaska et faire le sommet le plus haut d'Amérique du Nord, qui est le Denali. Voilà, ce qui est une aventure qui aurait dû durer plus de 4 mois. À l'heure où je te parle, je devrais encore y être. Et voilà, en juillet, je devrais à peu près atteindre le Denali. On aurait dû atteindre le Denali. Et donc, effectivement, ça ne s'est pas passé comme prévu, comme tu le sais.
Et est-ce que, du coup, un petit peu, enfin, comment est-ce que vous réorganisez là pour la suite? Est-ce que le projet un peu tombe à l'eau? Est-ce que ça fait que vous poussez un petit peu à plus tard?
Alors, la particularité, c'est que, si tu veux, il y a des saisons pour faire ça, puisque justement, il faut forcément qu'on soit dans l'hiver pour marcher sur les mers gelées sur l'océan Arctique. Donc, on ne peut pas faire ce chapitre-là cette année, on ne pourra plus le refaire, c'est râpé. On pourra le faire l'année prochaine, mais l'année prochaine, on avait quand même décidé de continuer. On avait déjà commencé à préorganiser en fait l'Afrique, puisqu'on va faire l'Elbrouz, qui est en Russie, pour ensuite traverser la Turquie, 1500 km à vélo, passer par la mer pour arriver en Afrique, faire le Kilimandjaro, et ensuite traverser l'Afrique par le fleuve Congo. Voilà, et donc on avait déjà commencé à bûcher sur ça, donc on s'en tient. Dans un sens, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de faire tous les chapitres. Que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens, on s'en fiche. D'accord. On veut réussir tous les chapitres qui nous feront, mout à bout, réussir à avoir fait un tour du monde complet sans moyens motorisés.
Voilà.
Donc, ça ne tombe pas à l'eau. Non, on est déjà en discussion avec les sponsors, avec les partenaires, avec les nouveaux équipementiers. Voilà, c'est un an de préparation. Voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Et à la fois partir comme je te le disais, puisque moi je vais partir en mer de 2 mois en voile, c'est aussi pour moi un entraînement, puisqu'on va avoir une partie de voile sur ce chapitre 3.
Voilà. Ok, génial. Et moi j'ai une petite question, parce que je comprends peut-être pas toujours, mais tu vois, quel est l'intérêt pour un sponsor de financer une expédition comme ça, notamment quand on sait qu'elle va être aussi longue et que la beauté un petit peu de la réussite passe par aussi le fait que vous arrivez à écrire justement toutes les étapes et que vous arrivez à faire tous les chapitres que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous leur racontez du coup aux marques? Comment est-ce que vous les embarquez avec vous dans votre aventure pour qu'ils aient envie de vous suivre?
On va dire que cette partie-là, c'est plus ma partie, justement, la partie commerciale, c'est plus mon domaine. Voilà, monter des dossiers pour réussir à les vendre aux marques. Donc, comment ça marche? Ça marche qu'une marque, déjà, il faut que tu partes du principe qu'avant, par exemple, je ne sais pas moi, Patagonia, elle prenait 5 mannequins et une équipe de tournage et qu'elle payait 50 000 euros et qu'elle partait à l'autre bout du monde pour mettre en situation son matériel pour être crédible. Nous, en fait, on arrive et on leur dit, donnez-moi 5 000 euros de matériel et je vais vous faire de la création de contenu pratiquement identique à ce que vous aurez eu pour un coût très réduit, puisque tout le reste est à notre charge. Et en plus de ça, on vous fait un feedback sur tous les produits que vous nous fournissez, puisqu'on va dans des endroits complètement extrêmes. Vous allez être affilié à une aventure qui sera certainement une aventure incroyable, mais surtout un record du monde. La plupart du temps, dans chacun de nos chapitres, il y a un record du monde qui est à effectuer, quel que soit le chapitre. Et puis après, il y a ces retombées médiatiques, puisque voilà, nous, on n'est pas non plus des immenses sportifs, mais on est quand même suivis dans le domaine de l'exploration. Et puis il y a surtout que les marques, beaucoup de marques, veulent faire partie d'une aventure et veulent pouvoir identifier leur matériel à quelque chose d'immense, voilà, à quelque chose qui vend du rêve. Et traverser des continents, skier, monter, traverser ou gravir des montagnes ou faire de la voile, ça fait rêver. C'est ce que les marques ont besoin. Donc ça fonctionne comme ça, et des marques nous donnent de l'argent ou des équipements pour partager notre aventure avec la leur.
D'accord, ok. Ouais, je comprends mieux. Mais du coup, tu peux toucher que des marques qui ont un domaine, enfin qui ont des produits ou des services qui sont en lien avec ton expédition.
Oui et non. Demain, je pourrais très bien être sponsorisé chez Total. Je le ferai pas pour une question d'éthique, mais Total, par exemple. Après, on est dans le domaine du mécénat. Donc le mécénat, lui, eux, ils ont des budgets à allouer pour s'acheter une image. Ouais, donc, on est d'accord. Carrément dans autre chose. Ouais. Donc, du coup, ils vont se dire, ouais, bon, allez, on a 50 000 euros, là, il faut qu'on se redore le blason, chez qui on les balance. Et donc là, on décide, nous, avec nos agences et les gens avec lesquels on travaille, de cibler des gens qui sont le plus dans le domaine et dans les valeurs qu'on veut partager. Mais on peut très bien avoir, je sais pas moi, Total ou je sais pas, Orange, Bouygues, qui tu veux, qui a envie de poser de l'argent sur des aventures. Il suffit que ça tombe au bon créneau, avec un bon produit ou n'importe quoi, ou j'en sais rien, et ça va marcher.
D'accord, ok, ouais. Et pour ça, il faut s'adresser un peu plus aux parties, enfin du coup, aux personnes qui gèrent la communication, c'est ça ? C'est
les Donc nous, on est très suivis. Nous, on a une agence de communication, nous avons une agence qui est spécialisée dans le sponsoring et le mécénat, qui va chercher des partenaires financiers, des équipementiers. Ensuite, nous, on est très branchés avec des équipementiers, puisqu'on a déjà beaucoup travaillé, donc en fonction des biotopes, voilà, là, cette année, c'était le froid, nous, on travaillait beaucoup avec les Norvégiens, nous, on est très copains avec les mecs qui ont sauvé MyCorn, voilà, donc c'est les gens qui sont partis sur la banquise secourir Mike et Borg, c'est les mecs avec lesquels on travaille pour faire des stages l'année dans le froid, voilà.
Ok.
Donc voilà, après, on fait appel à nos réseaux perso et on fait appel à des agences spécialisées.
Ok. Moi, je vois. Mais c'est ouf, quoi. C'est vraiment un métier à part entière.
Ah ouais, c'est une entreprise. Ça te demande 100% de ton temps. Il faut faire des conférences. Et puis après, t'as toutes les contreparties aussi à fournir, hein. Il faut aller faire du team building. Il faut devenir conférencier. Il faut emmener des gens dans certains endroits avec toi. Parce que ça fait partie des deals. Ça demande une organisation incroyable. C'est une très, très grosse entreprise.
Ouais, okay.
Monter une expédition, c'est une très grosse entreprise.
Mais c'est souvent ce qu'on voit pas. Après, bon, il y a différents styles, tu vois. Je parlais il y a pas longtemps avec Steven Le Yari
qui est un très bon copain.
Et ouais, mais écoute, si tu le vois bientôt, tu le passes le bonjour. Mais j'ai discuté un petit peu avec lui aussi. Et bon, après, c'est des expés qui sont parfois plus courtes, plus simples. Et il y a vraiment tout niveau. Moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a vraiment tout niveau de challenge.
Complètement.
Même un débutant, il peut créer sa propre histoire et créer sa propre tradition.
Et c'est la problématique d'ailleurs à laquelle on est confronté, c'est qu'en fait, nous, on a fait un choix très puriste avec Icarus. On pourrait très bien en fait partir 15 jours et faire une vidéo à sensation en étant parti 15 jours dans un endroit moins extrême. Et voilà, et c'est ce qui est dur. Pardon.
Ouais.
C'est ce qui est très dur. C'est de justement avoir choisi ce côté puriste où on part longtemps, on se met beaucoup en danger et on va faire une très grande vidéo certainement, mais qu'on aura quasi ou le même effet qu'un mec qui est parti 15 jours. Voilà.
Donc,
ce sera pas les mêmes budgets, mais c'est comme ça. Nous, quand on sera dans un monde de professionnels et que les gens parleront de nous, ils pourront pas se dire, ok, lui, il a été vite fait. Non. Quand on parlait avec Borghi, le partenaire de Mike, qui nous aiguillait un peu sur certains passages, parce que lui, il est spécialiste dans le polaire, eh ben, il nous disait, non mais les gars, là, clairement, vous attaquez un très gros morceau. Voilà.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai que pour une marque, effectivement, la frontière, elle est faible et ça montre aussi un gros engagement de leur part. Tu vois, quand ils font cette extra mile de vouloir justement accompagner des projets qui ont du sens, qui ont une histoire et qui effectivement sont pas juste pour faire un tout petit peu de com et faire quelques images et puis voilà quoi. Donc
exactement. Donc, ouais, ce travail de préparation, il est incroyable. Et ouais, Steven, il en sait quelque chose. Il est issu du domaine un petit peu il est issu de ce domaine-là aussi. Donc, certains ont des facilités, d'autres pas. Et voilà, en fonction de l'expé que tu fais, ça prend une envergure plus ou moins grande. Aujourd'hui, nous, pour te donner un exemple, sur le chapitre 2 d'Icarus, ça nous coûte 300 000 euros, quoi.
Ouais, donc c'est costaud.
C'est très, très costaud. Voilà, équipementien inclus, prod, voilà, on parle de très gros budget. Voilà, c'est gargantuesque.
Ouais. Et comment est-ce que vous avez prévu d'organiser votre temps, en fait, pour à la fois faire l'expé et en même temps être sur le front un peu de la logistique?
Après, t'as un staff.
Parce que tu vois, moi je vois beaucoup de gens qui vont dire ok, ben voilà, je vais faire 2-3 mois d'expé tous les ans, et puis tout le temps qui me reste, ça va être pour être organisé cet expé. Vous, j'ai l'impression que c'est un projet qui est presque à plein temps.
Ouais, complètement. Du
coup, comment est-ce que vous faites pour vous organiser, justement, aller organiser toute la partie logistique?
Alors, comment on fait? Ben, c'est assez simple, c'est que on a trouvé des gens qui nous accompagnent, donc on a une vraie team aujourd'hui, une vraie équipe qui nous épaule dans le sourcing, dans le démarchage, dans les envois de mails. C'est comme je te disais, c'est une entreprise, donc nous on est à la tête. Il y a des choses que les gens peuvent pas faire à notre place, comme pitcher le produit ou pitcher le projet, mais tout le reste, il y a des petites mains qui sont derrière, qui nous accompagnent, que ça soit sur la sécurité, que ça soit sur sur tout ce qu'on a besoin pour le bon déroulement d'une expédition, avant mais aussi pendant. On a toute une grosse équipe de sécu qui est là pour nous envoyer du secours si besoin. On est en liaison satellite pour la météo. Donc, c'est vraiment un gros, gros truc qu'il faut faire tourner, qu'il faut bien huiler toute l'année avec les entraînements, la préparation physique et la préparation du projet. Et puis après, il faut avoir mis en place les bonnes personnes et savoir déléguer dans l'organigramme pour que ça se profile parfaitement pendant que tu es à l'étranger. Ouais. Et au milieu de ça, je te parle même pas... des entreprises que moi j'ai en plus, que je dois gérer, je te parle même pas de ma vie de famille, je te parle même pas de tout ce que je dois faire à côté. Donc effectivement, à l'arrivée, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps.
Ouais, je viens de croire. La fin arrive un petit peu, en plus ouais. Tu m'as dit que tu devais prendre un train, donc du coup je vais pas t'embêter
à 18h, donc j'irai jusqu'au dernier moment, sache-le.
Ça roule. Tu m'as dit que tu partais pour un dernier projet là.
C'est mon dernier projet, parce que c'est le plus récent, c'est celui qui t'arrive après post-confinement. Mais oui, effectivement, je pars en mer cette fois-ci.
Tu pars en mer, ouais.
Je pars en mer. Donc, pour la petite histoire, c'est effectivement un sujet qui est très sensible, parce que je fais des choix qui me coûtent beaucoup pour cette aventure-là, puisqu'en fait, mon père a acheté un voilier, et il s'est mis en tête de vivre son rêve de jeune et de partir faire le tour du monde. Il s'avère que, outrepasser le fait que chaque membre de sa famille pense que notre père est malade, et que du coup on comprenne indirectement qu'il veuille finir ses vieux jours en ayant choisi sa fin, même si nous on respecte énormément ça en tant qu'homme, puisqu'on trouve que c'est une belle fin, on a aussi cette double casquette en tant que fils. Et donc, on a décidé de se mobiliser dans un sens, que ça soit financièrement ou que ça soit avec une présence physique, pour l'accompagner un certain temps. Et donc, cette année, mon père a décidé de partir dans les îles avec un bateau qu'il ne connaît pas et qui n'est pas spécialement... Enfin, il y a plein de paramètres, malheureusement, qui font qu'on sait que ça peut ne pas marcher, notamment le bateau qui n'est pas très, très automatisé sur certains niveaux. Donc techniquement, en fait, seul sur un bateau qui n'est pas automatique ou automatisé un maximum, c'est très compliqué. Mmh. Ensuite, il y a l'âge qui fait l'âge et la condition physique qui rentre en jeu. Et puis, il y a la volonté d'un homme à avoir une certaine fin. Et donc, on a décidé non pas de... Moi, je déteste qu'on me pose des questions. Donc, ça fait partie d'un très, très gros travail psychologique. Puisque, pour pas te cacher, j'ai dû faire le deuil de mon père à l'avance, alors qu'il est encore en vie. C'est une sensation très dure qui m'a beaucoup fait pleurer ces derniers temps parce que je pense que c'est pas normal. Mais dans un sens, je dois reconnaître qu'il y a quelque chose de beau, même si c'est tragique, il y a quelque chose de beau. Et donc moi, j'ai décidé d'accompagner mon père le plus longtemps possible. À partir du moment où il est loin des côtes, je mets ma vie entre parenthèses pour accompagner mon père et non pas essayer de le sauver ou non pas essayer d'être là, mais de me dire ok, la seule chose que tu peux faire, c'est qu'il faut que tu partes du principe que imagine. C'est comme si quelqu'un était mourant sur un lit. Qu'est-ce que tu ferais? Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si quelqu'un était mourant sur un lit? Eh bien, je ne me poserais pas de questions et je ne l'emmerderais pas non plus. Je ne lui poserais pas de questions. J'aurais juste envie de profiter de lui le plus longtemps possible et le mieux possible. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je vais partir avec lui. Je ne vais pas poser de questions et je vais le regarder sourire. Je vais faire monter mes enfants pour qu'ils profitent de leur grand-père un maximum. Et j'espère que ça n'arrivera pas, mais voilà, je fais tout en partant du pire des cas et ça me fait prendre ces décisions et donc je pars en mer pendant 2 mois sur les îles qui au demeurant sera complètement paradisiaque pour ensuite faire la transatlantique avec lui en novembre-décembre. Voilà.
Ok. Bon écoute, savoure de chaque instant. Voilà.
C'est. Ouais. Je crois c'est que c'est le seul mot. Ce que je fais.
Ouais, complètement. C'est le seul mot, tu vois. Et écoute, enfin, tout à l'heure tu m'as un peu pris de court, tu vois, quand tu voulais m'en parler, et en fait, ça m'a touché parce que, tu vois, moi j'ai toujours eu un papa qui m'a dit le jour où je commence à me baver dessus et être un
poids pour les autres,
tu m'emmènes en Suisse ou tu fais un truc, mais tu me laisses pas comme ça, quoi. Mmh. Et j'ai toujours eu cette éducation-là. Et mon père, il me l'a dit, mais super jeune. Je pense que je devais avoir 10 ans. Mon père, il me disait déjà ça. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il va me demander le jour où il me demandera. Mais en tout cas, ça m'a touché, le fait qu'il y ait une symbolique et qu'il y ait un rêve de gosse qui soit celui de vouloir conduire un bateau. Tu ne sais pas du tout comment ça va se passer. Tu sais rien. Mais en tout cas, lui, il fait son rêve, quoi.
Exactement. À un moment donné, en fait, moi, j'ai très jeune, j'ai appris, puisqu'en fait, pour la petite aparté, si tu veux, j'ai détesté mon père pendant des années et tout, et on s'entendait très très mal. Et puis c'est vrai, quand je suis allé en détention, je me suis rendu compte que j'avais qu'un seul père et tout, et donc je me suis dit, je suis parti du principe qu'à un moment donné, c'est plus les parents qui éduquent leurs enfants, mais c'est les enfants qui éduquent leurs parents. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire de plus intelligent qu'il a pas fait, parce que moi, je suis très croyant en fait en la faculté de l'homme. Et donc, à partir du moment où tu penses que tu as certaines capacités que tu n'arrives pas à avoir en l'autre, eh ben, c'est à toi de faire le travail supplémentaire. Okay. Et donc, je me suis dit, ok, je pense qu'il a passé ces capacités-là, ou alors que j'en ai. Il n'y a pas d'infériorité, supériorité, je m'en fous de ça. C'est qu'est-ce que je vais faire qui va m'alléger, moi, et qui va me rendre la vie plus simple, ou qui va changer quelque chose. Et donc, j'ai décidé de partir à mon père. Il m'a fallu certainement 5 longues années après avoir posé cet acte. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. Je me suis battu corps et âme pour en arriver là. Et aujourd'hui, ça m'émeut parce que te dire que je vais l'accompagner alors que j'étais pas destiné pour ça, en fait. Ce qui est très dur et très fou, c'est que je me suis battu pour l'aimer corps et âme et que maintenant je dois me battre pour le laisser partir. Donc, c'est très puissant et ça me demande une présence et une faculté psychologique hors du commun. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de trouver ça beau et de me dire, voilà, je veux en être, en fait. Je veux pas me lever un jour en me disant c'est terminé, rendez-vous à tel endroit pour aller le voir. Non, moi je veux en être. Voilà, et ça fait partie d'un cycle. Et même si c'est les choses qui m'effraient le plus au monde, la mort, alors que je prends des risques inconsidérables tout le temps, je dois pouvoir concevoir de laisser partir quelqu'un comme il le désire.
Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est touchant et ce qui est beau, c'est le pardon déjà. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pardonnent pas. En tout cas, beaucoup trop de gens qui ont
mais rappelle-toi,
c'est très difficile de pardonner.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit aussi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'est que chacun a sa notion du temps et moi, le temps, j'en ai pas.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Donc, ça prend le temps pour tout le monde et je ne critique absolument pas les gens qui prennent plus de temps que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question de est-ce que, à un moment donné, ce temps, tu l'auras encore.
Ouais.
Un jour, tu vas te lever, tu auras 50 ans et ça sera terminé.
Ouais.
Et les gens seront partis, tu pourras plus pardonner, tu pourras plus et tu t'en voudras. Les gens sont au don. De se dire, ah, putain, si j'avais su, putain, mais je l'aurais parlé, quoi. Ouais. Ah, mais c'était avant, en fait. C'est pas quand tu pensais que tu avais le temps.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment est-ce que ta famille, ta compagne, ils vivent avec tout ça? Toi, tu te mets dans des situations de...
Bah, c'est pareil.
De risque extrême. Bien comment, sûr. Comment est-ce que ta femme, elle est un peu à l'opposé de toi à ce niveau-là?
Complètement. Comment est-ce que tu vis? Ben déjà, ça m'a valu une séparation, hein, forcément, hein, puisque je ne suis jamais là et une femme a besoin de quelqu'un dans sa vie, donc c'était très dur. On s'est séparés, on s'entend à merveille, on est les meilleurs papas et mamans du monde, on fait tout pour nos enfants et on s'entend mais vraiment trop bien et c'est trop beau. Mais je me suis battu aussi pour casser les codes par rapport à ça aussi, tu vois, et pas tomber dans la bêtise, voilà, et arriver devant un juge ou n'importe quoi. Et on s'entend à merveille et on s'accompagne l'un l'autre avec ma famille, moi au premier degré, c'est-à-dire mes enfants. Moi, en fait, quand je pars de chez moi, je suis obligé de parler à la mère de mes enfants et lui dire, bon, voilà, si je reviens pas, ça c'est l'assurance vie, qu'est-ce qu'on va faire de mon corps si vous le retrouvez pas, qu'est-ce que tu dois dire aux enfants. Moi, j'ai ce type de conversation.
Ouais, ok. Ouais.
Donc, je ne peux pas ne pas l'avoir parce que ne pas savoir, c'est pire que tout. Mmh. Donc, je suis obligé de donner des directives par rapport à la façon de faire, à la façon de procéder. Et on est obligé d'avoir ce type de conversation. Elle sait que de toute manière, moi je prends, elle sait que j'en ai besoin. Je prends très souvent une métaphore où je me considère comme la locomotive de ma famille, avec tout plein de wagons derrière, d'accord ?
Okay.
Et moi je pars du principe que, à un moment donné, si tu veux que la locomotive elle avance, il faut lui donner le carburant qui la fait avancer, d'accord ? En l'occurrence, moi c'est l'adrénaline, c'est l'extrême, c'est l'introspection, j'en ai besoin. Si tu me le donnes pas, c'est tout le train qui n'avance pas. Yeah. Alors que si tu me donnes ce carburant, eh bien, moi, je suis la locomotive de ma famille, eh bien, je vais faire avancer. Donc, je vais rentrer heureux chez moi, je vais rentrer épanoui, je vais rentrer libéré, je vais rentrer disponible. Et c'est ce qui va permettre aux gens de se dire, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il est heureux, nous, ça nous rend heureux. Et oui, bien sûr que c'est dur parce qu'on doit traverser des choses. Et voilà, et comment on doit faire, on ne sait pas. On apprend après chaque expédition à trouver des nouvelles façons de vivre. Qu'est-ce qui a marché avant, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va changer. J'essaye de les faire venir de plus en plus, de partager mes passions avec elles, de les emmener en bateau, de les emmener à la montagne pour qu'elles comprennent ce que c'est la beauté des paysages que je rencontre. Mmh. Et voilà, et qu'elles entrent dans mon univers et moi je rentre dans le leur. Et c'est ça qui fonctionne, c'est qu'on a un échange en fait et qu'en plus de ça, on s'aime très fort. Nous, moi, j'ai une famille très unie et on est une espèce de petite mafia, voilà, avec mon frère, avec ma famille, mes enfants, on est extrêmement soudés et chacun donnerait sa vie pour l'autre. Et c'est cette puissance-là qui nous permet de comprendre ou d'accepter ou que l'autre parte alors qu'on n'est pas d'accord.
Ok, ok, ok. Bah écoute, ça fera une super belle conclusion et approche de la fin. La dernière question que je pose un petit peu sur ce podcast, c'est comme un passage de micro.
Ouais.
Et c'est de savoir, toi, ça serait qui le prochain aventurier, le prochain sportif ou la prochaine personne tout simplement que tu aimerais bien écouter sur ce podcast?
Moi, j'adorerais entendre Kylian Jornet.
Ok.
Voilà, c'est quelqu'un qui me fascine beaucoup et voilà, je trouve qu'il y a ce domaine de l'exception, de la folie qui me fascine.
Ok, bah écoute, ouais, j'adorerais l'avoir. Franchement, c'est un mec
qui doit faire partie de ta liste.
Ouais, il en fait partie. En plus, il est accessible, tu vois. On peut,
oui, carrément, il est abordable, c'est ce que je veux dire.
Il est carrément abordable. J'attends un petit peu peut-être histoire de, je sais pas, de me faire un nom, de me faire un petit peu plus de style, de me faire un peu plus mes armes. Mais ouais, c'est sûr que un jour il aura le micro tendu, c'est sûr.
Et ça serait tellement avec un immense plaisir. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que je souhaite à ton podcast de grandir. Voilà, moi ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir partagé tous ces moments avec toi avec le plus de sincérité possible. Voilà, merci de m'avoir invité en tout cas.
Bah écoute, merci à toi Loury, j'ai passé un merveilleux moment, j'ai appris plein de choses. J'ai eu du mal par moment, des fois, à essayer de me mettre à ta place, de ressentir ce que tu pouvais ressentir, d'essayer de comprendre ce que c'était que de la non-douleur. Mais en tout cas, t'es vraiment un extraterrien. Et écoute, j'encourage vraiment, vraiment tous les auditeurs à aller suivre un petit peu tes aventures, parce que c'est sûr que tu promets de belles choses et que cette petite pandémie, j'aurais pas dû utiliser le diminutif, mais en tout cas ce retardement dans tes projets, c'est que reculer pour mieux sauter.
Exactement.
Et je te souhaite de pouvoir vivre tes rêves, en tout cas.
Mais je te remercie et je te souhaite aussi, et je te dis à un de ces quatre, je l'espère.
Salut, à bientôt.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.